Morning Edition from NPR News.
Das sieht hier sein Bilder aus.
France Inter, le 18.
Et ce soir, nous allons en Arménie, où Valérie Pécresse termine un voyage officiel. Avant elle, il y avait Éric Zemmour. Qu'est-ce qui emmène les candidats de droite à visiter ce pays? En quoi ce pays nous parle au point de devenir officiellement porteur avant élection présidentielle? Vous verrez que chacun va y chercher son propre électorat, justement. Le bruit du monde est à Gaza et nous allons y cueillir des fraises. C'est la saison et surtout une des dernières manières de survivre pour les Gazaouis qui les cultivent. Mais que faut-il d'ingéniosité quand les bombes, la guerre et les privations d'eau ne sont jamais loin? Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Adrien Toffolé a trouvé le mur du Texas, pas encore terminé. Des Mexicaines pour aider les Américaines, désormais pour certaines interdites d'avortement. Et une très très longue traversée à la nage, ça se passe à Madagascar. 18h50, le cinéma en VO, Don't Look Up sur Netflix, vendredi avec des super superstars en pagaille. 18h55, le monde d'après, c'est Jean-Marc Four. Ce que la Russie de Poutine a gardé de l'Union soviétique. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Boris Avjemian.
Bonsoir.
Vous êtes historien, directeur de la bibliothèque Nubar. Vous avez écrit notamment « Les petites Arménies de la vallée du Rhône, histoire et mémoire des immigrations arméniennes en France ». C'est publié chez Lieu-Dit, ça a été publié l'année dernière, donc c'est tout neuf. Je le disais, Boris Adjemian, Éric Zemmour déjà, Valérie Pécresse cette semaine, elle rentre aujourd'hui, mercredi, ont pris le temps dans leur campagne de passer en Arménie. Premier, peut-être seul voyage d'ailleurs à l'étranger de leur campagne. Alors au premier regard, on se dit qu'ils flattent un électorat arménien qui représente pas mal de monde en France, mais finalement, 600 000 personnes, c'est pas tant que ça. Donc c'est pas là du tout qu'il faut porter le regard, selon vous ?
600 000 personnes, déjà le chiffre est très discutable parce qu'il n'y a pas de statistiques qui permettent de confirmer ou d'infirmer quoi que ce soit en la matière. D'autre part, à considérer qu'il y aurait 600 000 Arméniens en France ou personnes se réclamant comme arméniennes, ça ferait pas 600 000 électeurs, enfin je ne pense pas.
Ça ferait pas un bloc, surtout.
Et ensuite, ça ne ferait certainement pas un bloc, puisque les Arméniens les gens d'origine arménienne qui sont en France et qui votent, votent comme les Français, c'est-à-dire ils ont chacun leurs opinions politiques, et donc il n'y a pas un électorat arménien à proprement parler en France.
Donc le regard, c'est vers leur électorat respectif plutôt qu'il faut le porter. Qu'est-ce qui flatte l'électorat d'Éric Zemmour puis celui de Valérie Pécresse? Qu'est-ce qui fait de cette Arménie comme au fond une enclave chrétienne en danger, parce que c'est de ça dont il parle l'un comme l'autre?
Oui, je pense qu'effectivement, s'il y a un électoralisme, si vous voulez, derrière ce type de discours ou de visite, c'est davantage au niveau national que ça se joue. Au niveau national, donc, la communauté arménienne, c'est à la différence du niveau local, n'a pas vraiment une influence électorale. Et donc oui, c'est un discours qui s'adresse donc avec beaucoup d'arrière-pensée à l'électorat. Dans le cas d'Éric Zemmour et de Valérie Pécresse, c'est l'électorat soit de droite pour Valérie Pécresse, soit même d'extrême droite pour Éric Zemmour. Et donc en fait, ça s'inscrit dans un contexte où en fait depuis plusieurs années, et même depuis je dirais 15 ou 20 ans, on a pris l'habitude en France, dans les discours publics tenus soit par des hommes, soit par des femmes politiques, de parler des Arméniens toujours avec une arrière-pensée, c'est-à-dire à travers la figure des immigrants arméniens, de la question du génocide arménien. On ne parle pas vraiment des Arméniens, on parle de l'immigration en général. Or, l'immigration est un sujet extrêmement sensible en France, c'est pas nouveau. Et depuis les années 2000, ce qui s'est introduit dans les débats sur l'immigration, c'est l'importance de la question de l'islam et du rejet de l'islam.
Mais du coup,
dans ce contexte.
Pardon, finissez, excusez-moi, monsieur Adjemian, pardon.
Et donc, dans ce contexte, en fait, le fait que Éric Zemmour, par exemple, et Philippe de Villiers se rendent en Arménie comme premier voyage de campagne, en mettant en avant, et c'est comme ça que ça a été interprété partout dans les médias, en mettant en avant donc le fait qu'ils allaient finalement témoigner de leur soutien à une chrétienté assiégée par l'islam, ou dans une optique de combat des civilisations, là, on est vraiment dans une dérive qui a très peu de choses à voir avec la communauté arménienne en France.
Et peut-être pour les Arméniens aussi, d'ailleurs, j'aimerais savoir jusqu'à quel point on fait une vraie torsion de la réalité quand on veut présenter l'Arménie comme effectivement cette espèce d'enclave chrétienne qui serait cernée et donc en danger.
Ah oui, vous avez tout à fait raison, parce que résumer l'Arménie au christianisme, c'est quand même faire une réduction énergique, si vous voulez, et résumer les conflits contemporains qui affectent l'Arménie et les Arméniens à la question religieuse, c'est également une torsion de la réalité. Il y a des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux nationaux, politiques. C'était déjà le cas au moment du génocide, donc il y a un siècle. Hein. Le génocide n'est pas un génocide qui a été perpétré au nom d'idées religieuses, même si aujourd'hui il y a des relectures en ce sens, c'est qui ont le vent en poupe en fait, parce que on a tendance à vouloir dresser un monde chrétien qui serait contre un monde islamique qui serait irrémédiablement, si vous voulez, antagoniste. Dans le conflit du Haut-Karabakh par exemple, qui a ressurgi l'an dernier en 2020, donc là on est dans une question qui en fait oppose deux nationalismes donc sur les décombres de l'URSS et c'est donc des racines qui sont éminemment politiques, qui sont pas du tout religieuses, même si d'un côté l'Azerbaïdjan est un pays majoritairement musulman soutenu par la Turquie et mais aussi par Israël, et de l'autre côté l'Arménie effectivement est un pays très majoritairement chrétien.
On va y revenir à ce conflit, à cette perte de territoire aussi très symbolique. Je veux surtout pas que ma question apparaisse particulièrement cynique, mais est-ce qu'aux yeux de la droite vous avez le sentiment qu'au fond les Arméniens ont remplacé les chrétiens du Liban, parce que c'est aussi autour de ces raisons-là qu'on allait voir les chrétiens du Liban à une période.
Oui, alors non, j'y vois pas du tout de cynisme dans votre question. En fait, il faut effectivement élargir la focale, je pense, parce qu'on ne parle pas que des Arméniens. À droite, on parle beaucoup actuellement des chrétiens d'Orient. Donc, il y a eu vous vous rappelez de la campagne de François Fillon, mais ça a commencé quelques années avant. En fait, à partir de la deuxième invasion de l'Irak, on a commencé à beaucoup se préoccuper du sort des chrétiens d'Orient en Europe et aux États-Unis, pour de bonnes raisons. Seulement, il y a ensuite une récupération dans certaines franges de l'échiquier politique, notamment en France, et toute une thématique qui, en fait, au nom de la défense des chrétiens d'Orient, qui est tout à fait justifiée, est une attaque, si vous voulez, contre l'islam, les musulmans, avec l'idée que, on transpose des problèmes qui affectent le Moyen-Orient à des enjeux de politique intérieure.
Et vous savez pourquoi je me pose la question, Boris Adjemian? Vous l'avez dit, effectivement, Valérie Pécresse, là, pour le coup, est vraiment dans les pas de ce que faisait François Fillon. Mais aujourd'hui, aller en Syrie, aller en Irak, qui ont été persécutés, effectivement, les chrétiens par Daesh, c'est beaucoup trop compliqué. L'Arménie, c'est plus facile, en fait, pour aller adresser cette question-là.
Oui, l'Arménie, c'est plus facile, à tel point qu'il y a eu vraiment un défilé des personnalités depuis un an. Il y a dans la ligne, parce que déjà il faut pas mettre, je pense, le voyage de Éric Zemmour et celui de Valérie Pécresse dans le même sac, si je puis dire.
Non. Et d'ailleurs, ils n'ont pas vu les mêmes personnes, et c'est aussi intéressant. Il y a une espèce de visite qui est très politique, puisqu'elle a rencontré Pachinian, le président, etc. Il y a de vieilles relations qui datent aussi de sa responsabilité à l'Île-de-France. Que n'a pas du tout Éric Zemmour. Donc, ce n'était pas du tout le même voyage, en fait.
Tout à fait. Oui, Valérie Pécresse, bon, en fait, en tant qu'élue et élue de la région Île-de-France, elle est depuis des années en contact avec des associations arméniennes, avec la mairie, la municipalité d'Yerevan, la capitale de l'Arménie. Donc, en fait, son engagement vis-à-vis de questions arméniennes, il est ancien. Il est un peu comparable à celui d'Anne Hidalgo, de l'autre côté de l'échiquier politique, si vous voulez. Donc, je ne dis pas que dans ce type de démarche, il n'y a pas de sincérité. Au contraire, ce sont des personnes qui sont vraiment investi dans ces thématiques, ce qui n'empêche pas après qu'il y ait également un usage politique de la mémoire ou des questions géopolitiques comme celle actuelle. J'ai perdu le fil.
Non, mais c'est pas grave, parce que c'est intéressant que vous ayez parlé d'Anne Hidalgo, parce qu'on est beaucoup en train de parler de la droite, mais si je ne m'abuse dans le temps, c'est d'abord la gauche qui a demandé notamment la reconnaissance du génocide arménien. Donc là, en l'occurrence, ce sont deux personnages de droite qui y vont. Mais c'est, pardon de le dire comme ça, un terrain droite et gauche en France que l'Arménie.
Oui, alors, mais je dirais même pas que c'est la gauche qui a demandé la reconnaissance du génocide arménien en premier. Il n'y a pas vraiment d'antériorité là-dessus, même si le premier président qui a prononcé le mot génocide... Ah, les communistes, effectivement, c'est le seul parti qui, à une époque, parlait du génocide arménien, alors que tous les autres employaient des guillemets ou tournaient la tête quand on parlait du génocide arménien. En fait, pour le génocide arménien, la reconnaissance du génocide arménien en France, comme partout dans le monde, ça a été un très long combat mené dans la solitude par des militants, par des associations qui ont été longtemps snobées, en fait. Et c'est seulement depuis les années 2000, et donc la loi de 2001 qui porte reconnaissance du génocide arménien en France, que la France a vraiment évolué sur cette question et que la question, si vous voulez, le thème du génocide a été saisi par l'ensemble de l'échiquier politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus une seule personnalité politique, un seul média sérieux qui remet en cause ou en doute la question du génocide. Mais ce n'est pas du tout quelque chose de droite ou de gauche. Je pense que c'est beaucoup mieux partagé que ça sur l'échiquier politique. Alors, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, on a même l'extrême droite qui se met à aimer les Arméniens, alors que par le passé, ce n'était vraiment pas leur tasse de thé. Mais là, c'est encore une fois, pour d'autres questions.
Et justement, d'ailleurs, c'est sous votre plume que j'ai lu que les Arméniens, et c'est pour ça d'ailleurs que cette extrême droite-là peut-être s'en rapproche, c'est aussi, j'y mets des guillemets, le bon étranger, si on le compare au mauvais étranger qui est le maghrébin, encore une fois. Et là, on ne parle plus du tout de politique d'accueil des étrangers, en fait. On les regarde très différemment.
Oui, ben en fait, ça, c'est des choses que les historiens de l'immigration observent, de manière récurrente, parce que les discours sur telle ou telle population immigrée ou d'origine immigrée évoluent. Et pour les Arméniens, ça a évolué, comme ça a évolué avant eux pour les Italiens, pour les Polonais. Les Polonais et les Arméniens, dans les années 20, dans les années 30, étaient considérés comme inassimilables et indésirables. Qui étaient considérés comme des gens qui ne voulaient pas devenir français et qui, de toute manière, pour les Arméniens, étaient culturellement beaucoup trop éloignés des Français pour un jour faire des Français. Donc aujourd'hui, ça a duré jusqu'au début des années 50, ce regard sur les Arméniens. Je passe sur la période de Vichy, qui évidemment, vous comprenez bien que c'était un peu la même optique. Bon, après, il y a eu un retournement progressif qui s'est accentué dans les années 2000, où justement, il y a eu aussi la reconnaissance du génocide qui a fait d'énormes progrès en France, et la France là-dessus est très en avance par rapport à beaucoup d'autres pays dans le monde. Et donc, on s'est mis à mettre en avant la figure du bon immigré arménien. Mais encore une fois, quand on parle du bon immigré arménien, en résumant en gros la communauté arménienne de France à Henri Verneuil et Charles Aznavour, on ne parle pas que des Arméniens. On parle aux Français de la France, de la République, de sa capacité à intégrer, donc une image un peu d'Épinal de la République qui intègre ses bons étrangers, mais bien sûr, on fait aussi le distinguo entre les bons et les mauvais, ceux qui peuvent s'intégrer, ceux qui ne peuvent pas. Et là, ça rejoint tout un tas de discours, encore une fois, qui réutilisent les mêmes mots, les mêmes thématiques, celles des indésirables, des gens qui sont inassimilables, des gens qui n'ont pas vocation à rester en France. Bon, c'est des choses qu'on a entendues toutes ces dernières années dans la bouche de responsables de droite comme de gauche, d'ailleurs.
Et j'ajoute rapidement, Boris Adjemian, vous avez fait référence à cette parenthèse, effectivement, la période Vichy. On se souvient aussi ce qu'ont été les Arméniens et le rôle qu'ils ont tenu pendant dans la résistance française. Je me demandais, est-ce qu'il y a eu une tribune des Arméniens en France, de la diaspora, disant, dites donc, cette récupération, nous, ça nous va pas. Je suis assez curieuse de savoir, est-ce que vous le savez, ce qu'on dit à l'intérieur de l'Arménie. Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que ça les amuse? Est-ce que ça les rend totalement froids, ces visites-là à répétition?
Alors, je ne pense pas que c'est... Alors, il y a eu plusieurs tribunes en France, et je ne parle que pour la France, mais rien que dans la diaspora en France, il y a eu plusieurs tribunes qui se sont opposées de manière très véhémente à la récupération que faisait Éric Zemmour en Arménie. Mais pour ce qui est de l'Arménie, je ne pense pas que ça les amuse, parce qu'en fait, la situation en Arménie n'est pas du tout drôle. Et donc, les gens ont besoin, effectivement, de se sentir moins isolés, parce que l'Arménie est très isolée, finalement, sur le plan géopolitique, très faible sur le plan militaire, économique et tout ce que vous voulez. Et donc, dans un sens, les visites de personnalités venues de l'étranger pour alerter l'opinion mondiale ou étrangère par rapport à ce qui se passe, c'est toujours bon à prendre. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont dupes non plus et incapables de faire le distinguo. Je vais vous donner un exemple. Ben, vous l'avez cité tout à l'heure, en fait. Quand vous avez dit que Valérie Pécresse n'a pas effectué le même voyage que Éric Zemmour, parce qu'elle a vraiment rencontré des personnalités éminentes, tangente, si vous voulez, soit religieuse, soit politique. On peut aussi parler de son détour, sa visite au mémorial du génocide, qui est un, si vous voulez, c'est un passage obligé pour toutes les personnalités en Arménie. La visite au mémorial, qui est très protocolaire, on est reçu par le directeur du mémorial du génocide, on dépose une gerbe de fleurs, etc. Éric Zemmour, c'est important de le noter, n'a pas eu droit à une visite officielle. Donc il a évidemment voulu aller faire des photos devant le mémorial, mais on lui a pas déroulé le tapis rouge. Donc il y a quand même et les gens, ça montre quand même que les gens ne sont pas complètement dupes.
Alors ce que vous disiez effectivement sur le fait que les Arméniens ont le sentiment d'avoir été abandonnés parfois, c'est ce qu'ils disaient aussi au sortir de la guerre avec le Haut-Karabakh. Ce qu'on entendait aussi, ce qu'on entend encore dans certaines bouches, c'est la France n'a pas été assez engagée pour défendre l'Arménie dans cette guerre dans le Haut-Karabakh. Est-ce que c'est aussi ce qu'on entend en Arménie? Est-ce que c'est ce qu'on attend aussi, le cas échéant, si cette guerre devait se rallumer, est-ce que c'est ce qu'on attend aussi de la France?
Alors, je pense qu'effectivement, il y a un double langage que tout le monde a pu constater venant de la France vis-à-vis de l'Arménie, c'est-à-dire en fait les instances se sont réparties les rôles. Le président Macron a très bien parlé de l'Arménie en la désignant comme l'agressé dans la guerre contre l'Azerbaïdjan et en désignant l'Azerbaïdjan comme l'agresseur et en soulignant le rôle de la Turquie, des djihadistes qui avaient été envoyés sur le terrain. Enfin, en gros, il a dit la vérité. De l'autre côté, le ministre des Affaires étrangères a fait le travail du Quai d'Orsay, qui est toujours dans sa continuité, c'est-à-dire soutenir les régimes qui sont les plus intéressants d'un point de vue économique ou militaire pour la France. Et donc, c'est certainement pas l'Arménie. Donc, d'un côté, on fait des déclarations et de l'autre, on continue business as usual, si vous voulez. En Arménie, je ne sais pas si je ne pense pas que les gens soient, si vous voulez, naïfs au point de croire que la France va envoyer des soldats mourir pour l'Arménie.
C'est ce que j'allais dire, mourir pour Erevan, on n'y est pas encore. Mais enfin, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on disait ce pays, l'Arménie, extrêmement divisé. Ça a été terrible au sortir de cette guerre-là avec un Nicole Pachinian, le président, qui était dans une extrême mauvaise posture, mais c'est un pays qui tient, qui a eu des législatives qui sont bien passées en juin dernier, avec un Pachinian qui a été reconduit très correctement, alors qu'il avait été traité de traître quelques mois plus tôt, en fait. Ça dit aussi des choses sur la manière dont ce pays fonctionne en ce moment, non ?
Oui, parce que en fait, on peut dire que le Premier ministre s'est mis en danger en signant un cessez-le-feu avec l'Azerbaïdjan, qui était très défavorable au camp arménien. On peut dire c'est évident que c'est une défaite lourde pour l'Arménie et ça a des répercussions graves au plan intérieur parce qu'effectivement, la vieille garde qui monopolisait le pouvoir depuis les années qui ont suivi l'indépendance et que Pachinian justement avait chassé de manière démocratique du pouvoir, elle a sauté sur l'occasion pour l'accuser de traîtrise. Dans un tel contexte de nationalisme exacerbé, si vous voulez, et puis de pays qui effectivement quand même menacé dans son existence, l'insulte de la trahison, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça peut aller très loin.
Boris Adjemian, merci beaucoup. Vraiment, c'est passionnant. Vous êtes historien, vous êtes directeur de la bibliothèque Nubar et je rappelle que vous avez écrit Les petites Arménies de la vallée du Rhône, histoire et mémoire des immigrations arméniennes en France. C'est publié chez Lieudit. On vous remercie vraiment beaucoup. Merci vraiment.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse. Sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe à Gaza où on cultive des fraises. Le saviez-vous ? Avec beaucoup d'imagination parfois pour éviter les bombes, les tensions et aussi le manque d'eau. Et puis la troupe qui vous accompagne jusqu'à 19h sous les radars, Adrien Toffolet.
On ira au Texas, à la frontière avec un mur en construction, mais attention, ce n'est pas celui de Donald Trump.
Allez, le cinéma en VO et Corinne Pellissier avec Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Timothy Chalamet pour le même film, c'est sur Netflix à partir de vendredi. Et le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. 30 ans pile après l'éclatement de l'Union soviétique, la Russie de Poutine menace militairement l'Ukraine, un peu comme si l'URSS était toujours là.
Allez, à tout de suite, tout le monde, ne partez pas trop loin. Le tour de la planète continue, mais prends le temps d'écouter Lana Del Rey, If You Lie Down With Me, c'est sur France Inter.
Put your rebels on, baby, giddy up. Baby, won't you dance, baby, get away. Dreamy nights, talk to me with that whiskey breath. Tour me twice, treat you like a holiday. don't say you're over me when we both know that you ain't. Don't say you're over me, baby, it's already too late. Just do what you do best with me. Dance me all around the room. Spin me like a ballerina super high. Dance me all around the moon. Light me up like the 4th of July. Once, twice, three times the guy I ever thought I would meet. So don't say you're over me when we both know. If you lie down, lie next to me. La 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 la. If you lie down, lie next to me. La 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 la. When you lie down, lie next to me. Get your jacket on, be a gentleman. Get into your truck and pick me up, hey. We were built for the long haul freight train. Burned by fire without child like a stowaway. And don't say you're over me when they all know that you ain't. If you lay down right next to me, dance me all. Super high, dance me all around the moon. Like 6 times till I'm sick and I cry. Once, twice, 3 times the guy I ever thought I would meet. So don't say you're over me when they all know that you're lying. If you lie down, lie next to me.
Le bruit du monde ce soir est à Gaza et on va parler fraises. Là-bas, au Proche-Orient, c'est la pleine saison des fraises et Gaza est réputée pour la culture de la fraise. Les conditions dans lesquelles les paysans travaillent en disent long sur la situation économique et sécuritaire à Gaza, vous allez l'entendre. Mais dans le nord de l'enclave, tout près d'Israël, un cultivateur a développé une technique innovante et propre pour cultiver ses fraises. Le reste, c'est Frédéric Mettezo qui raconte.
À Beit Laya, on arrive à la ferme d'Akran Abou Houssa par un chemin sablonneux et défoncé. Ce fils de paysan de 45 ans cultive 15 hectares de fruits et de légumes. Passons les panneaux solaires. Sous une serre, on découvre des fraises qui poussent non pas au sol, mais dans des bacs de terre suspendus au plafond et alignés sur des dizaines de mètres.
Moi, je fais de l'agriculture intensive. On rationalise l'utilisation de l'eau. Toute l'eau en trop ici est réutilisée pour les autres cultures et on économise en moyenne 70% par rapport aux techniques traditionnelles.
L'eau douce pompée dans le sol sert à arroser les bacs. Elle suinte par en dessous et coule dans des tuyaux qui la ramènent dans un bassin de collecte. Elle sera réutilisée pour les concombres ou les tomates. En culture classique, Akran produit 3 tonnes de fraises par hectare et par an, 8 tonnes de cette façon et sans engrais. Il a plutôt recours à Phytocéilus persimilis.
Nous préférons utiliser ces araignées très utiles parce qu'elles mangent des insectes plutôt que des pesticides toxiques. On préfère une agriculture naturelle, c'est une méthode moderne pour obtenir des produits bons pour la santé humaine.
Bientôt, ces fraises seront vendues 1,50€ le kilo à Gaza, 5€ en Cisjordanie. Ce serait une 12 euros en Europe, au cœur de l'hiver, si les exportations étaient toujours possibles. Mais ça n'est pas le cas à cause des restrictions israéliennes. Ces fraises restent pourtant une fierté pour Gaza.
Il y a 15 ans, nous exportions des fraises vers l'Europe. Elles nous représentaient, elles étaient comme des ambassadrices pour nous, les Palestiniens de Gaza. On a transformé cet endroit en lieu touristique et quand on a annoncé qu'on cultivait les fraises suspendues, les gens ont commencé à visiter la ferme. Il y a quelques jours, une délégation d'ambassadeurs de plusieurs pays de l'Union européenne nous ont rendu visite. Ils ont goûté des fraises et ils nous ont dit que c'était les meilleures qu'ils avaient jamais mangées. Goûte !
Elles sont déjà très très bonnes. Momtaz, tamam. Et alors le jus de fraises frais qu'on vient de nous apporter, qu'on boit à la paille, est vraiment délicieux.
Le jus de la ferme est bon parce qu'il est frais et il est fabriqué avec amour.
32 personnes issues de 5 familles des environs travaillent ici à l'année, plus 7 extras pour les fraises. La ferme reçoit régulièrement la visite de la FAO, l'agence de l'ONU pour l'alimentation, ou encore d'associations humanitaires. Aujourd'hui, un groupe de 8 femmes, dont Hada Larian de Mercy Corps.
Nous sommes ici pour passer du bon temps, boire du jus frais et aussi pour en savoir plus sur la culture des fraises, comment ils prennent soin de ces plantations et des autres. C'est une réussite car ce type d'agriculture ne se fait que dans ce secteur, mais dans toute la bande de Gaza, on aime ce genre de fruits. Alors les gens viennent exprès dans cette ferme pour la qualité de ces cultures.
Mais à 2 kilomètres de la frontière israélienne, il n'est pas toujours facile d'être paysan. L'armée israélienne contrôle très strictement l'entrée de matériels agricoles par peur qu'ils ne soient utilisés comme pièces détachées pour fabriquer des roquettes. Elle répand aussi des herbicides, officiellement pour ne pas avoir la vue bouchée par des herbes trop hautes. L'urbanisation menace aussi les agriculteurs gazaouis, raconte Jihad Abou Hassan, horticulteur de formation et coordinateur terrain pour Première Urgence Internationale qui aide les agriculteurs à Gaza.
La population à Gaza dépasse les 2 millions et on parle de à peine 350 km carrés, toute petite par rapport au nombre de la population. Avec le taux de croissance à Gaza surtout, c'est certain qu'à un moment donné, petit à petit, il y aura moins de terres à cultiver à Gaza. Alors il y en a qui font des cultures innovatrices, mais d'ici 10 ans, 20 ans, il y aura certainement beaucoup moins de terres à cultiver à Gaza.
Akran remonte les allées de sa serre. Il regarde affectueusement ses fraisiers, dont il caresse les feuilles comme s'il s'agissait de petits animaux.
Nous, les fermiers, nous appartenons à la terre et nous appartenons à nos fermes. Pendant la dernière agression israélienne, malgré le danger, nous avons continué à travailler tous les jours. Nous avons fait le nécessaire sous les bombardements.
Les fraises de Gaza et Frédéric Mettezo pour les goûter. Merci beaucoup Frédéric, à très vite. Le bruit du monde, la suite, c'est toute l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Adrien Toffolet.
Build that wall, build that wall, build that wall.
Ah bah on s'en souvient bien de tout ça. Vous nous emmenez, Adrien, ce soir d'abord dans l'un des fiascos de la présidence Trump.
Celui du fameux mur qu'on entend, promesse de campagne de l'ancien président américain. Un mur anti-immigration le long de la frontière avec le Mexique, financé par le Mexique, comme il le disait. En réalité, sur les 1600 kilomètres promis par Donald Trump, seulement 727 ont été construits sur des secteurs qui avaient en plus déjà des barrières de protection mises en place depuis Clinton. Le coût a été multiplié par 3, 15 milliards de dollars et sans un peso mexicain. Joe Biden, bien entendu, a stoppé la construction dès son arrivée au pouvoir en janvier dernier. Pour autant, cette histoire de mur n'est pas du tout terminée. Elle est au cœur d'une bataille pour le moins saugrenue entre démocrates et républicains, entre État et gouvernement fédéral. Le gouverneur du Texas, par exemple, Greg Abbott, vient d'inaugurer en grande pompe le début des travaux de son propre mur anti-migrant.
There are laws passed by the United States Congress concerning governing immigration.
Pour Abbott, l'administration Biden ne respecte pas le Congrès, est laxiste alors que le gouvernement fédéral doit gérer l'immigration. Alors on va se battre contre lui, explique-t-il. Budget de 3 milliards de dollars pour à la fois ériger un mur, mais aussi assurer la surveillance de la frontière, ou comme il dit, pour sécuriser et sauvegarder la souveraineté du Texas et aussi des États-Unis. Parce qu'il faut le souligner, on est dans un jeu de construction de destin politique, celui du gouverneur Greg Abbott en l'occurrence, à qui on prête des ambitions présidentielle. Et c'est une situation d'autant plus absurde qu'on trouve le long de la frontière des cimetières de poutrelles en métal à l'abandon depuis l'arrêt des travaux, surveillés par des équipes de sécurité, payées par le gouvernement avec les impôts donc. On a l'entretien des pans de murs existants, déjà abîmés par les aléas climatiques, avec les impôts aussi, ou encore l'administration Biden qui rend les terres saisies à l'époque pour la construction à leurs propriétaires, y compris au Texas. Bref, le feuilleton est encore loin d'être terminé.
Et enjambons donc la frontière, Adrien, au Mexique, où une solidarité avec les voisins est en train de se construire.
Solidarité entre femmes. Les militantes pro-avortement au Mexique ont gagné un énorme combat en septembre dernier, quand la Cour suprême a jugé inconstitutionnelle la criminalisation de l'avortement, ouvrant un accès digne et encadré à cette pratique pour toutes les Mexicaines. Et ces activistes, désormais, regardent au-delà de la frontière. De plus en plus d'associations viennent en aide aux Américaines qui souhaitent avorter au Texas, mais aussi dans d'autres États où la législation transforme ce qui devrait être un droit en véritable combat. Depuis septembre, par exemple, le Texas interdit aux femmes de cet État d'avorter après 6 semaines de grossesse. Pour ces femmes, se pose donc la question suivante. Comment trouver le traitement pour pratiquer soi-même un avortement médicamenteux? Réponse à distance. Il y a tout un réseau d'entraide qui est en train de se mettre en place depuis le Mexique pour à la fois fournir la pilule abortive de l'autre côté de la frontière, mais aussi prodiguer un accompagnement.
Les accompagnements peuvent être virtuels ou par llamada téléphonique.
La jeune Mexicaine qui parle fait partie d'une association, Juarez Feminista, et avec son téléphone, depuis chez elle, elle guide les femmes qui ont réussi à trouver un traitement médicamenteux dans la clandestinité aux États-Unis. Elle communique via messagerie avec une lourde responsabilité sur les épaules, car c'est sur elle que repose le bon déroulement de la procédure. Une pratique à risque pour les Américaines comme pour les Mexicaines qui, chacune de leur côté, eh bien, prennent le risque de violer la législation américaine, mais sont prêtes à le faire par solidarité au nom du droit à disposer de leur corps.
Allez, pour finir, on va à Madagascar avec un sauvetage de navire catastrophique qui se termine avec un héros national.
Une opération de sauvetage est lancée lundi matin suite au naufrage d'un navire, 64 morts, une quinzaine de disparus. Les secours vont sur place. En fin de journée, un hélicoptère part les rejoindre avec à son bord des hauts gradés de la gendarmerie et le secrétaire d'État à la gendarmerie, le général Serge Gélé. L'appareil se crache en mer vers 19h. Pas de nouvelles des disparus, mais le lendemain, un survivant est retrouvé en mer, et un deuxième, le général, retrouvé par hasard par des pêcheurs.
Je suis vivant, je suis bien arrivé à Mahom. Je remercie tous les pêcheurs et les villageois de Mahom.
Il a enregistré un message vidéo à son arrivée à terre, épuisé, les traits tirés, allongé sur une sorte de transat, pour remercier les pêcheurs, dire qu'il va bien et expliquer son périple. Il a nagé pendant 12 heures, Fabienne. Il a été repêché à 75 km du large et une phrase en tête pour rester motivé. Mon tour de mourir n'est pas encore arrivé. Pour avoir accompli son devoir et pour le courage dont il a fait preuve pour survivre sur les réseaux sociaux, en tout cas, les Malgaches ont déjà fait de lui un héros national.
Allez, Adrien Toffoli, sous les radars. Merci beaucoup, Adrien. On se retrouve demain. Vous partez avec les Black Keys. Crawling King Snake, c'est dans la playlist de France Inter.
Call up on your love.
Black Keys, Crawling Kingsnake sur France Inter. Allez, cinéma.
France Inter. Un jour dans le monde.
This is the worst news in the history of humanity. He just blew us off.
What are we gonna do? We have to release the information.
So we just leak it.
Le cinéma en VO avec une comédie de fin d'année pour les abonnés à Netflix. Ça sort ce vendredi, ça s'appelle Don't Look Up, film du réalisateur Adam McKay. Très attendu pour son casting, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Cate Blanchett. Il s'est pas moqué de nous, le Père Noël. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonjour Fabienne.
Et bonjour aussi. L'emballage du cadeau a l'air super, rien à dire. En revanche, alors à l'intérieur du paquet, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fin du monde et de comètes qui foncent sur la Terre? C'est quoi l'idée?
Adam McKay, avec son nouveau film, a décidé de nous secouer. Pas de cadeau sous le sapin cette année, mais un charbon, on ne l'aura pas volé. Tous les jours, on nous le dit, la pollution, le réchauffement climatique, la couche d'ozone, il faut sauver la planète. Mais le message, apparemment, n'est pas compris, en tout cas pas suffisamment. Du coup, ça lui a inspiré un film un peu cynique, c'est sûr, puisque le pitch, c'est « on va tous mourir ». Ceci étant, l'emballage est plutôt drôle. Adam McKay tenait vraiment à en faire une comédie avec des personnages loufoques, deux scientifiques, une journaliste et un Donald Trump au féminin. Vous ne serez pas prêts de les oublier.
There's a comet headed directly towards Earth. Do you know how many the world is ending meetings we've had over the last 2 years?
Drought, famine.
Hole in the ozone is so boring.
You know, I have a mixture of feelings. Things are very, very scary right now.
Tout cela me préoccupe beaucoup quand vous regardez nos dirigeants. Il y a de quoi avoir peur. Il faut qu'ils prennent la mesure de l'événement. La crise du climat est bien réelle. On n'imaginait pas que ça irait si vite. Je ne dirais pas que je suis pessimiste, mais je suis terrifié. Et pourtant, je comprends l'évolution des choses. C'est pour ça qu'avec le film, j'ai voulu prendre un maximum de recul pour essayer de rire de tout ça. Quand on y pense, c'est tellement ridicule.
Voilà, c'est le plus gros casting, vous l'avez dit, de ces derniers mois. Cate Blanchett, Meryl Streep, Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio en lanceur d'alerte. La mise en scène est assez pop, conforme au précédent film d'Adam McKay, avec des commentaires, des incrustations, des écrans divisés et donc cette fameuse comète qui s'écrasera sur la Terre dans très exactement 6 mois et 14 jours.
Alors justement, en prenant un spectre qui irait de Mélancolia jusqu'à Armageddon, on avait un peu l'impression d'avoir tout vu sur le sujet, Corinne. C'est un genre quand même assez répandu hein, au cinéma. Mais à la lumière de notre époque, de la dictature du buzz, des réseaux sociaux, cette nouvelle histoire est tellement réaliste qu'elle nous fait rire un petit peu jaune quand même.
Oui, sous couvert d'humour, c'est quand même un film engagé. Hein. Tout le monde va en prendre pour son grade. Les dirigeants, les médias, les climato-sceptiques, votre voisin, tous ceux en gros qui préfèrent suivre le divorce de Jay-Z, Beyoncé sur les réseaux sociaux plutôt que de surveiller cette comète qui fonce sur nous. Pour Adam McKay, le constat est un peu amer. La fin du monde est proche et tout le monde regarde ailleurs. Mais heureusement, nous avons la science et le pouvoir encore de nous insurger.
We know scientifically for sure.
Il n'y a plus de doute scientifique. On connaît maintenant les dégâts sur l'atmosphère. Et pourtant, si vous regardez la télé aujourd'hui, la seule chose qui passionne les gens, c'est l'image de cet ours filmé dans un jacuzzi. Et je vais vous dire, moi aussi, je l'ai regardé cette vidéo. Je ne vaux pas mieux, mais il faut qu'on se ressaisisse, que nos dirigeants prennent des engagements. Et en la matière, je suis pour les gestes forts, pour la désobéissance, pour les grèves massives. L'humanité n'a jamais connu pire menace. Heureusement, tout n'est pas foutu. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons la science. C'est ça la bonne nouvelle. Nous savons produire de l'énergie propre. Tout est là. Le plus dur maintenant, c'est d'éveiller les consciences.
Our guests today have made a pretty big discovery in space.
How big is this thing, though? And I can't destroy my ex-wife's house. Is that possible?
There's a 100% chance that we're all going to die.
Alors évidemment, ce n'est peut-être pas le genre d'ambiance que vous aviez imaginé pour votre réveillon de Noël, Fabienne, mais c'est un film vraiment réussi, drôle, pertinent et qui vous fera réfléchir.
Moi, ce qui me fait réfléchir, c'est que j'ai pas vu l'histoire de l'ours dans le jacuzzi. Du coup, ça me donne envie d'aller voir. C'est malin. Allez, Don't Look Up, signé Adam McKay, disponible ce vendredi sur Netflix. Merci à vous, Corinne Pellissier. Joyeux Noël, tiens.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, Vladimir Poutine tient conférence de presse demain matin sur fond de menace militaire russe en Ukraine et 30 ans pile après le démantèlement de l'Union soviétique. C'était donc en décembre 1991. Vous allez rapprocher ces événements parce que pour vous, ce que la Russie a conservé de l'URSS, c'est d'abord ça, la militarisation, et c'est votre monde d'après.
Oui, on a l'impression d'assister à un bégaiement de l'histoire. La Russie est en train de déployer depuis plusieurs semaines des forces d'une ampleur sans précédent à la frontière ukrainienne. Plus de 150 000 hommes, entre 50 et 100 bataillons, disposés progressivement depuis l'été en quatre points en arc de cercle à proximité de l'Ukraine. Et hier, Vladimir Poutine a employé un vocabulaire guerrier en parlant de possibles représailles militaires. L'hypothèse d'une offensive russe en Ukraine, aérienne, voire terrestre, ne peut plus être exclue, même si l'Occident a du mal à l'admettre. Et tout cela rappelle terriblement le passé soviétique, les chars de l'URSS en Hongrie ou en Tchécoslovaquie dans les années 50 et 60. Le fait est là, 30 ans après l'éclatement de l'Empire, la logique militaire est omniprésente dans cette Russie héritière de l'URSS. La volonté de puissance est centrale, en l'occurrence reconquérir l'Ukraine, ancien joyau de l'URSS. Ça va plus loin. Moscou possède, rappelons-le, plus de 6000 ogives nucléaires, plus que les États-Unis, dont certaines sur des versions toutes récentes du missile Iskander 4 et de sa déclinaison hypersonique. Le complexe militaro-industriel dicte les arbitrages financiers. Les services de renseignement dont Poutine est issu et la police politique sont au cœur du pouvoir, exactement comme à l'époque soviétique.
Mais alors, il n'y a pas que la militarisation pour rappeler l'URSS dans la version Poutine, non?
C'est vrai. La répression de toute forme d'opposition, d'abord, même plus. En fait, le glissement progressif vers l'interdiction de toute pensée alternative, poussée à l'autocensure, le propre du totalitarisme. L'ironie de l'histoire, c'est que la seule opposition à peu près tolérée aujourd'hui en Russie, c'est le Parti communiste, un comble. Mais en fait, c'est pas illogique. La période soviétique est glorifiée par Poutine, qui voit en l'éclatement de l'URSS, je cite, « la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle ». Et le corollaire de cette affirmation, c'est la réécriture de l'histoire. Comme à l'époque soviétique, là aussi. Les manuels scolaires sont révisés, les pages noires de l'Union soviétique sont gommées. C'est l'objectif du démantèlement en cours de la grande ONG Mémorial, célèbre pour son travail de mémoire sur les millions de victimes du stalinisme. Il y a d'autres points communs. La centralisation du pouvoir, héritage du centralisme démocratique communiste, qui avait tout du centralisme et pas grand-chose de démocratique. La corruption, qui profite aux dirigeants. Et la désignation de l'Occident comme l'ennemi, incarnation de la décadence.
Donc, c'est le retour de l'Union soviétique 30 ans plus tard.
Vladimir Poutine en rêve peut-être, mais non en fait, parce qu'il y a au moins trois différences. La première, c'est que le pouvoir russe d'aujourd'hui n'a pas d'idéologie. Il n'y a pas de corpus de pensée ou d'habillage qui viserait officiellement à créer un nouvel homme dans une société prétendument égalitaire. Zéro projet politique, si ce n'est la puissance pour la puissance. La deuxième différence, c'est que l'Empire soviétique est bien mort et enterré. Alors oui, c'est vrai, il y a des relents, l'occupation de la Crimée, la satellisation de la Biélorussie, l'influence dans le Caucase, notamment en Géorgie, et donc ses velléités en Ukraine. Mais tout ça reste modeste rapporté à la taille énorme de l'ex-URSS. L'empereur est nu, finalement, recroquevillé sur la Russie. Enfin, la troisième différence, c'est que le monde est devenu multipolaire. La Russie n'est plus dans un simple face-à-face avec l'Occident. Il y a la Chine aux premières loges et plusieurs forces régionales comme la Turquie. Cela dit, attention, ça rend presque la situation plus dangereuse. D'une part, cet éparpillement de la puissance multiplie les zones de tension et la Russie peut vouloir en profiter, attaquer en Ukraine en misant sur le fait que les Occidentaux fermeront les yeux parce que davantage préoccupés par les menaces chinoises sur Taïwan ou par le nucléaire iranien. D'autre part, la nostalgie de la grandeur soviétique est un moteur déterminant chez Poutine, presque une obsession, même si c'est une cause perdue. Donc là, on peut entrer dans l'irrationnel. Et dans ce cas, le pire est possible.
Jean-Marc Fauré, Le Monde d'après, merci beaucoup. Jean-Marc, on reste ensemble. Hélène Philippe pour le journal dans un instant et puis le téléphone sonne.